Il n'y a pas de droit. Le droit, c'est le directeur. C'est tout. Si vous avez dit quelque chose contre l'administration, on vous punit. On dit vous avez menti, on vous punit, c'est tout. Ça va pas plus loin.
Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient.
Vous êtes en état d'arrestation.
Vous êtes là pour être puni. Dans une prison, c'est pour vous punir. C'est pas seulement vous pouvez liberté, c'est pour vous punir. On vous tient là, vous ressortez comme vous étiez, ou pire, et c'est tout.
Ils disent qu'on est menaçant. On est menaçant.
On est menaçant.
Ils sont que des menteurs. Ils sont que des menteurs.
Ils sont que des menteurs.
Tout est prison, tout est prison.
Laisse pas béton.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Laisse pas béton sur Radio Panique 105.4, l'émission qui laisse la parole aux personnes concernées par la tôle. Alors aujourd'hui avec nous, Gilles et Sarah, et alors à la technique, ils sont pleins, donc on a Greg, on a Marie, on a Suzy, on a Mia et on a Robin, ils sont venus en force aujourd'hui. Aujourd'hui pour l'émission Laisse pas béton, nous allons parler de la santé en tôle. Parce qu'évidemment, on a beaucoup parlé Covid ces derniers mois, mais la santé en tôle, en fait, c'est pas que le Covid, c'est pire que le Covid, c'est pire que ça, la santé en tôle. Pour introduire l'émission, on s'est dit qu'on allait voir en théorie ce que c'était censé être la santé en prison. Je vais vous lire un petit passage que j'ai trouvé donc sur le SPF, sur le site du SPF Justice. Alors, le détenu doit pouvoir bénéficier des mêmes soins de santé que dans la société libre. Les soins sont adaptés à ses besoins spécifiques et à l'environnement pénitentiaire. Des infirmiers, des médecins, des psychiatres, des psychologues, des dentistes et des kinés travaillent dans les prisons. Ils veillent à ce que le détenu se sente en forme, tant physiquement que mentalement. Alors dans les faits, c'est assez différent. Dans les faits, c'est surtout qu'il n'y a pas assez de médecins, il n'y a pas assez d'effectifs, il n'y a pas assez de matériel. Et donc, les médecins sont disponibles 6 minutes par consultation, et ça, ce qui fait plus ou moins aussi 2 heures par an et par détenu. Et il faut savoir aussi qu'évidemment, donc, la santé des détenus en prison se dégrade. On sait que les conditions à l'intérieur sont hyper mauvaises et que du coup, ça joue à la fois sur la santé physique et sur la santé mentale. Alors avec nous aujourd'hui en studio, on le disait tout à l'heure, donc on est avec Sarah. Sarah qui est proche d'un détenu, donc tu as ton compagnon qui est détenu. Qu'est-ce que ça t'évoque justement la santé en prison? Comment est-ce que ton compagnon le vit? Comment est-ce que toi tu le vis? Est-ce que tu as un avis là-dessus?
C'est dur, c'est... Voilà, quand ils écrivent un rapport pour aller chez le médecin, c'est hyper long. Ils attendent trop longtemps et ils n'ont pas les soins adéquats.
Ok, donc qu'il y a un problème dans la prison pour avoir justement accès à des soins, c'est ça que tu veux dire?
Oui, c'est très difficile, enfin, que ce soit physiquement ou moralement.
Est-ce que du coup ton compagnon justement a déjà été malade, a déjà été confronté à des problèmes de santé?
Oui, il a mal à la dent et ici il a attendu un mois et demi avant d'aller se faire soigner.
Ok, parce qu'il n'y avait pas de dentiste dans la prison où il est?
Si, il y a des dentistes, mais c'est long, c'est la liste d'attente, il faut patienter qu'ils leur disent.
Et on en parlait justement tout à l'heure avec Gilles, on a lu un témoignage de personnes détenues justement sur la question des dentistes. Apparemment c'est un problème qui est hyper récurrent, les dents en prison, et ça nous a fait sourire jaune en lisant le fait que en fait la personne elle disait, mais en fait pour pouvoir avoir accès à un dentiste au moment où t'as mal à ta dent, tu dois anticiper 3 semaines avant, te dire « Ok, dans 3 semaines, en fait, je vais avoir une rage de dents. Il faut que j'anticipe, je vais appeler le médecin. » Enfin, je vais demander à pouvoir voir un dentiste maintenant, comme ça, je suis sûre de pouvoir être soignée à ce moment-là, quoi. C'est un peu dingue, quoi. C'est,
oui.
Tu peux crever de mal pendant longtemps.
Mm-hmm. Ben ouais, et on en avait déjà parlé dans d'autres émissions où, pendant la crise du Covid, évidemment, on avait beaucoup parlé de la santé. Et notamment de cette histoire de toutes les démarches qu'il y a à faire avant d'avoir de pouvoir avoir une visite médicale ou des soins appropriés, etc. Peut-être si tu peux expliquer un peu plus précisément, je ne sais pas si tu sais ou pas les démarches.
Ben ici, il faut remplir un rapport et attendre que le médecin réponde et vienne vous chercher jusqu'en cellule. Et on ne sait pas quand il vient, le médecin.
Et donc c'est
dans
c'est
une ça, semaine, c'est... dans deux semaines, trois semaines, quatre semaines, un mois et demi, deux mois.
Ouais, c'est un peu laissé à l'appréciation soit de l'administration pénitentiaire, quoi. Par exemple, entendu des histoires de que des matons ou quoi pouvaient laisser traîner les dossiers, etc. exprès. Oui. Et c'est souvent un truc qu'on entend sur la prison, qu'en fait tous les droits que t'as en prison deviennent des moyens de chantage. Pour que dire, tiens-toi à carreau, sinon en fait, t'auras pas accès au médecin, etc. C'est un truc qu'on entend souvent, ça.
Oui, c'est vrai. Ou sinon, que ce qu'on m'a dit aussi, mon compagnon m'a dit une fois, il déchirait les rapports.
Ah ouais, carrément.
Il n'arrivait pas jusqu'à destination.
Et c'est pas étonnant, c'est effectivement quelque chose qu'on a déjà pas mal entendu, de les plaintes sont pas prises au sérieux, et du coup, ça crée d'énormes soucis qui sont en fait le suivi des détenus, des maladies, des soins et n'est absolument pas fait parce qu'on pense qu'ils simulent et que c'est pas vrai, ou juste peut-être ils n'ont juste pas envie de prendre en compte les plaintes, quoi.
Ouais, tout à fait. Et du coup, je me demandais aussi, qu'on entend beaucoup que la prison, si t'as déjà peut-être des pathologies en entrant, elles vont s'aggraver, et que si t'es quelqu'un qui est en bonne santé, quand tu rentres en prison, en général, ton état de santé se dégrade au fur et à mesure. Je voulais voir, est-ce que c'est quelque chose que t'as remarqué au fur et à mesure de tes visites, voir ton compagnon, si t'as remarqué un changement?
Ici, moi, il avait déjà des allergies avant d'entrer, et ça aussi, c'est catastrophique vis-à-vis de ça, parce que il n'a pas les médicaments adéquats, que ce soit aussi au niveau tout ce qui est linge, enfin les linges anti-allergéniques et tout ça. Ici, il a eu le papier du médecin, il est entré en préventive en mois de novembre, et le temps, de novembre à janvier, c'est seulement en janvier qu'il a reçu le document de la prison qui pouvait recevoir ces linges anti-allergéniques. Et encore, quand on doit les apporter, c'est catastrophique.
Parce que ça, du coup, c'est toi qui dois t'en charger d'apporter ce linge, c'est pas...
C'est moi qui dois apporter, et puis après, il faut le document de la prison. Si j'oublie le document aussi, c'est catastrophique, ils ne le font pas rentrer, ou ils le bloquent en haut, quand ils refont monter le linge.
Donc au final, ça retombe, la charge mentale retombe sur toi, et donc sur les proches. Si on veut prendre un petit peu soin des personnes qui sont détenues, ça retombe systématiquement sur les proches qui sont autour, quoi.
Oui, c'est très dur.
Ouais, ça y est, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est aussi ça, on en parlait aussi tout à l'heure, la charge mentale qui repose sur les épaules des proches et qui sont souvent sur les épaules des femmes aussi, de continuer à prendre soin et de faire attention à ce qui ne va pas et de pouvoir apporter du matériel. Et par rapport justement au matériel, il y avait aussi ce truc de... en fait, la santé des détenus se dégrade parce que l'enfermement, en fait, ça fait... ça fait mourir à petit feu, en fait, c'est l'enfermement, ça rend malade. Et du coup, ça joue à fond aussi sur l'état psychologique. Et alors, sur la question aussi, sur la question de la santé d'un point de vue physique, c'est des exemples comme, par exemple, la vue qui se détériore, parce qu'en fait, la vue est limitée, on est constamment en train de regarder des murs, donc clairement, ça crée des problèmes au niveau des yeux. Le fait que les prisons soient vétustes, le fait qu'il y a un manque d'hygiène aussi, sur le fait de changer les draps, de pouvoir avoir accès à des produits de nettoyage pour nettoyer sa cellule. Tout ça, c'est des choses qui font que qui peuvent créer clairement des problèmes sanitaires au sein des prisons et qui peuvent directement impacter les détenus, puisqu'ils peuvent développer toute une série de maladies, ou juste je sais plus si avec toi aussi qu'on disait ça, ou je sais plus où j'ai entendu ça, mais la question par exemple des punaises de lit, la question des poux, la question de... Voilà, il y a toute une série de choses qui paraissent être anodines, mais en fait qui sont énormes quand on est enfermé dans une cellule, avoir des puces de lit dans son lit, en fait, c'est pas super agréable en fait, à long terme, et surtout qu'on vit avec, et du coup ça joue aussi sur l'état psychologique. Donc c'est vraiment hyper compliqué, quoi. Et donc c'est vraiment à la fois la structure de la prison et comment elle se présente physiquement. Est-ce que ça crée le manque de lumière aussi, par exemple, ça joue un rôle à fond sur le moral, et donc c'est pas évident. Et c'est aussi la condition d'enfermement et les relations avec les détenus, avec les matons, et toute une série de choses.
Mmh. Ouais, donc on voit un peu la prison comme un espace par le manque d'hygiène, etc., et la promiscuité comme super propice au développement des maladies, etc. Et de l'autre côté, un espace où il est super difficile d'avoir accès à des soins de santé, donc c'est super contradictoire, et encore plus avec voilà, le SPF Justice qui nous dit que oui, tous les détenus ont droit d'avoir un médecin dans les mêmes conditions qu'à l'extérieur. Enfin, ok, mais on n'y croit pas du tout.
Et du coup, toi, Sarah, est-ce que ton compagnon te parle justement des conditions à l'intérieur par rapport à l'état de sa cellule ou par rapport à des questions d'hygiène ou
Oui, la première fois, sa cellule, il m'a dit que quand je suis rentrée, elle était toute sale. Et après, le rechanger, c'était la même chose. Il n'y a pas d'hygiène dans les cellules. Chaque fois, quand ils les changent comme ça, c'est eux qui nettoient leurs cellules. C'est les crasses des gens qui sont restés derrière, avant lui.
Les sanitaires aussi, j'imagine que c'est le même délire.
Oui, les sanitaires, ils n'ont pas de séparation. Pas de séparation vis-à-vis des sanitaires.
Ouais, je lisais l'autre fois dans un article que les sanitaires, c'était la fête aux champignons. Je ne sais plus dans quelle prison c'était, mais c'était absolument dégueulasse, quoi.
Ouais, j'ai l'impression que ça fait déjà une bonne petite introduction et je proposerais de faire une petite pause musicale avec un morceau que tu nous as proposé, Sarah, qui est un morceau de Naps qui s'appelle Fais le bisou.
Pour me ramène d'une femme pour autant qu'une folle qui reste à tes pieds. Ok. Ok. Manu. Pour me ramène d'une femme pour autant plutôt qu'une folle à tes pieds. Il voulait lui mettre l'anneau, mais au dernier moment, elle s'est trop manquée. J'ai bu des océans de vodka dans la Polyakov, gros, j'avais papier. Bouger à l'étranger en avion, il faut faire entrer du papier. À Marrakech, je mange des huîtres, elle m'a fait coucou par la vitre. Quand je venais, je bois des litres, tempérament au bordélique. À Marrakech, je mange des huîtres, elle m'a fait coucou par la vitre. Quand je venais, je bois des litres, tempérament au bordélique. J'ai vu des larmes sur tes joues, dans le manège à bijoux. Dis-moi à quoi tu joues, c'est oublier, fais le bisou. Et fais le bisou, fais le bisou, fais le bisou, fais le bisou. J'ai vu des larmes sur tes joues, dans le manège à bijoux. Dis-moi à quoi tu joues, c'est oublier, fais le bisou. Fais le bisou. J'ai refermé le chapitre, okay. Elle me rend fou et polémique. J'ai le regard dans le vide, des fois il parle mal vide. On fait des tubes, on fait des hits, comme les Allemands dans la rigue. On a pété, c'est aller vite, on a gagné tarpette audite. Des fois je fais des tours en ville, en ville. Je me mets la cuite en odyssel, en odyssel. Tout ce que je fais c'est par amour. Quand je fume trop, je suis parano. C'est un galant pour veneno. J'vis ma vie à la Hineni. J'ai vu des larmes sur tes joues, dans le manège à bijoux. Dis-moi à quoi tu joues, c'est oublier, fais le bisou. Et fais le bisou. Fais le bisou. Fais le bisou. Fais le bisou. J'ai vu des larmes sur tes joues, dans le manège à bijoux. Dis-moi à quoi tu joues, c'est oublier, fais le bisou. Fais le bisou, fais le bisou, fais le bisou.
Okay, on est de retour dans l'Espa Béton après cette petite pause musicale. Alors, si vous êtes des auditeurs et auditrices régulières, ce qu'on espère, vous avez écouté la dernière émission qui parlait des visites hors surveillance. Voilà, petit rappel de ce que c'est les visites hors surveillance. Ce sont donc des visites qui peuvent être conjugales ou familiales, où les détenus et leurs proches se retrouvent ont droit à une pièce sans surveillance, donc qui est un peu aménagée, où ils peuvent passer du temps vraiment en intimité et en privé, quoi. Et donc ça, c'est une forme de visite qui n'est plus du tout opérationnelle depuis le 14 mars, quoi, le début du confinement. Donc ça fait ça fait plus de 6 mois, quoi. Et du coup, je voulais faire un petit retour sur une manifestation qui a eu lieu le 29 août devant la prison de Saint-Gilles, et qui, du coup, demandait haut et fort le retour des visites hors surveillance et des visites dans des conditions normales tout court, ainsi aussi que inclure les personnes concernées par la prison dans la prise de décision qui concerne la prison, quoi. Et donc cette manif a été organisée à l'initiative d'un certain nombre de proches de détenus, et qui est soutenu par le collectif La Claque, donc le collectif de lutte anticarcérale. Je propose tout de suite un petit extrait audio de cette manif.
Haute-Gate, arrêtez cette torture psychologique. Arrêtez de détruire nos familles et nos relations.
Cette atrocité de ne pas pouvoir embrasser ou même voir nos aimés doit stopper. Ils sont privés de liberté, certes, mais ils ont encore accès à leurs droits dits fondamentaux. Et il me semble que ce joli royaume est en train de les outrepasser. Les détenus paniquent, ne sont pas suivis correctement. Pas de médecin, pas de masque, pas de gel, pas de distanciation. Et maintenant, alors que la vie a repris pour la plupart, pour eux, quasi rien. Ils ont tous des droits, nous n'en avons plus. Quand reverrai-je mon fils ? Dans un mois ? Dans un an ? Personne ne peut le dire.
Attends, policiers ! Comme Koundes ! Vous êtes des criminels ! Direct à la poubelle ! Solidarité avec les prisonniers du monde entier ! Solidarité avec les prisonniers du monde entier !
Il n'y a pas de réponse à cette manif et aux revendications, et si les choses bougent pas, ça sera pas la dernière manifestation.
On en fera d'autres.
On vous soutient, on sera toujours là pour vous. Vous êtes nos enfants, vous êtes nos maris, on vous aime, ne l'oubliez jamais. Et courage, mes amours, vous êtes toujours dans nos cœurs, et on se battra toujours pour vous. Nous ne nous détruirons jamais.
Détruisons toutes les prisons, les barbus, murs barbus, les prisons, toutes les prisons.
Voilà, un bel extrait de cette manifestation qui a rassemblé du coup une cinquantaine de personnes super motivées pour faire valoir leurs droits. C'était vraiment un beau moment. Et voilà, juste pour dire que c'était une manifestation, comme on l'a entendu, s'il n'y a pas de réponse, il y en aura d'autres. Et la mobilisation continue. Et on appelle tout le monde à soutenir cette mobilisation, en fait, des proches de détenus. Il y a notamment une plainte contre l'État belge qui est en préparation. Voilà, donc c'est plein de choses. Et voilà, après cette petite parenthèse, ce retour sur la mobilisation pour le retour des visites normales, on peut revenir un peu vers le sujet principal de l'émission, qui est donc la santé.
Du coup, pour revenir sur ce sujet, nous, on avait envie de vous faire écouter le témoignage d'une personne qui a travaillé en prison il y a quelques années et qui, du coup, avait un regard direct, en fait, sur ce qui se passait à l'intérieur. Alors, on sait qu'on a clairement envie de mettre systématiquement en avant la parole des personnes directement concernées, donc la tienne aujourd'hui, Sarah. Et on se disait simplement que ce témoignage pouvait amener justement à des points de discussion et à éclaircir un peu certains points, certaines choses qui se passent en prison sur les questions de santé. Et du coup, on vous propose d'écouter les témoignages de cette personne maintenant.
Alors, pour la question, donc, quelles sont les plus grosses difficultés sur l'accès aux soins, j'ai envie presque de la regrouper avec quels sont les problèmes les plus récurrents. Mais en gros, ce que j'ai pu rencontrer quand je travaillais, c'était surtout la plus grosse difficulté, je dirais que c'est la disponibilité des soignants et les effectifs des soignants qui sont sur place en prison. Donc, il faut savoir qu'il y en a très peu, qui sont très mal payés, donc la motivation est assez, se perd. Ils se font surmener, ils n'en voient pas le bout, ils ont du matériel qui est pas digne d'un travail de soignant, enfin d'infirmier, de dentiste, de médecin, etc. Et donc les détenus en pâtissent énormément, parce qu'il faut savoir que par exemple pour une rage de dents, ça peut prendre des mois avant de pouvoir être soigné. Donc voilà, c'est un gros problème. Il y a vraiment ce côté où il vaut mieux pas avoir trop d'urgence quand on est incarcéré. Il y a aussi le problème qui est récurrent pour plein de choses, c'est le fait que beaucoup de personnes en prison ne maîtrisent pas bien le français, donc ne comprennent pas très bien comment le système est fait. Donc, n'arrivent pas à comprendre qu'ils doivent remplir un petit rapport pour avoir accès aux soins de santé. Et donc, du coup, restent dans l'ignorance de comment il faut faire et donc dans la souffrance par rapport à ce qu'ils ont, la pathologie qu'ils ont. Alors, les problèmes récurrents, quand même, en fait, c'est bien, les deux questions sont quand même distinctes. Les problèmes récurrents, il y a cette liste d'attente, l'accès aux soins qui est pas toujours évident parce que l'incompréhension de comment y accéder. Et alors il y a par exemple aussi une difficulté qui apparaît souvent, c'est par exemple des personnes qui ont des traitements spécifiques et qui, au moment de l'incarcération, n'ont pas pu faire ce qu'il fallait pour les avoir sur eux. Et que ça nécessite donc une ordonnance d'un médecin ou qu'un proche ramène le médicament, mais qu'en fait c'est des personnes qui se retrouvent sans proche ou sans famille et qui du coup ne savent pas sur qui s'appuyer pour que quelqu'un leur apporte ce traitement. Ça peut être très compliqué. Et aussi donc le fait que si la personne veut voir son médecin qu'il voyait à l'extérieur, il a le droit. Mais bon, tous les médecins ne sont pas, c'est pas qu'ils ne soient pas prêts, mais enfin, n'est pas le temps même de venir en prison, aussi parfois ne sont pas prêts à venir en prison, que ça peut être compliqué pour eux. Et donc, du coup, ça peut être assez embêtant par rapport à des traitements plus particuliers pour des pathologies plus particulières. Il y a aussi une problématique qui est à prendre en considération, c'est les conditions d'incarcération aussi. C'est à savoir que les personnes détenues ont pas accès à beaucoup de luminosité. Les cellules sont petites et souvent insalubres. Donc ça peut créer des pathologies, des troubles psychologiques ou même des troubles physiques. C'est pas des conditions de vie qui favorisent à être en bonne santé, on va dire. La nourriture aussi qu'on leur sert, c'est tricatelle, quoi. Donc, c'est tout des conditions de détention qui font que, si on est déjà une personne fragile, on a peu de chance d'en sortir indemne. Si on est solide, ça peut passer, mais ça laissera quand même des séquelles. Pour la dernière question, que j'ai mis en dernier, la surmédication. En régime ordinaire, je ne serais pas trop me prononcer. Il y a tout ce qui est consommation de médicaments pour planer. Il y a des échanges qui se font. Donc ça, c'est les détenus eux-mêmes qui décident de consommer plus pour fuir mieux la réalité carcérale, en dehors de tout ce qui est stupéfiant aussi, bien sûr. Mais moi je connais plus la surmédication à l'annexe psychiatrique, où là en effet on se retrouve avec des détenus qui parfois prennent 15 gélules différentes, et en fait on s'est rendu compte qu'ils savaient même pas ce qu'ils prenaient, donc il y a même enfin il y a pas cette comment dire cette présence d'esprit d'informer la personne sur ce qu'elle prend, pourquoi elle le prend, qu'est-ce que ça peut lui faire de positif ou de négatif, de qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur sa santé. Et c'est des cocktails assez assez impressionnants. Donc voilà, on vient toquer à leur cellule et on leur donne le petit plateau qui a été préparé le matin. Et voilà, ils n'ont plus qu'à prendre. Donc il n'y a même plus cette notion de choix, parce qu'ils ne savent même pas. Et ces médicaments, ils mettent dans des états tellement, voilà, tellement faibles et dans une incapacité de penser, de réagir, que bah, ils les prennent et puis c'est tout. Et c'est aussi une façon pour eux de fuir de nouveau la réalité carcérale. Donc ça, c'est vraiment des... C'est des gros problèmes, je pense. Il y a un travail qui a été effectué il y a quelques années via l'autre lieu pour justement parler de ça avec des détenus d'annexe psychiatrique. Et c'est via ça qu'on s'est rendu compte qu'en effet, il y avait un gros manque de conscientisation par rapport à la médication. Donc voilà en gros ce que je peux dire sur le soin de santé en milieu carcéral. C'est pas tout rose. Voilà.
Alors c'est sûr, c'est pas tout rose. Ça fait beaucoup d'informations violentes en un coup. Je sais pas si toi, Sarah, il y a des choses que t'avais déjà entendues, il y a des choses sur lesquelles t'aurais envie de réagir, des choses sur lesquelles ton compagnon a déjà, enfin que ton compagnon aurait déjà évoqué, je sais pas.
Oui, au niveau des médicaments. Il me dit, Simon, il m'en parle beaucoup. S'ils me disent, il y a des personnes qui prennent des médicaments, elles ne savent même pas c'est pourquoi. Ils sont à moitié endormis, ils arrivent à peine à lever leurs pieds quand ils marchent. Et ils ne savent pas pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ces médicaments? À quoi ça sert?
On en discutait aussi avec une amie qui était psy en prison et qui disait, en fait, le fait de donner trop de médicaments ou beaucoup de médicaments, et comme tu viens de le dire, qui endort les gens, c'est pour assurer la paix sociale à l'intérieur et pour être tranquille et pour dire en fait fermez vos gueules, on vous entend plus, prenez vos médocs et foutez-nous la paix. Il y a vraiment un gros problème en tout cas avec ces prises de médicaments, quoi.
Oui, c'est catastrophique. Mmh. Et une fois aussi, j'étais en visite et il y en a un, il est arrivé, il était à moitié endormi, je dis mais qu'est-ce qu'il a celui-là, ils l'ont réveillé. Après, j'ai mon compagnon qui me dit non, mais à mon avis, ils lui ont donné les médicaments, qu'il a peut-être pris tout en une fois. Ou...
Ouais, donc manque de contrôle aussi sur ce que les gens prennent, quoi.
Ouais, tout à fait. Et ouais, du coup, il y a ce truc-là de médicaments qui assomment, etc., qui endorment, ça peut servir en effet de forme de contrôle. Et ce qu'on entend aussi un peu, c'est par exemple de tout soigner au paracétamol, quoi. Que t'as une douleur dans le bras, au paracétamol, t'as une rage de dents, au paracétamol, en fait, que c'est pas vraiment des soins, c'est juste, on donne un peu des cachets comme ça, on sait même pas ce que c'est, on sait pas à quoi ça sert, et c'est vraiment pas des soins adaptés, en fait. C'est dire, oui, si, on a donné des médicaments, mais en fait, c'est des médicaments qui sont pas du tout adaptés, qui servent pas à ça, c'est un truc qu'on entend aussi beaucoup.
Ouais, là je rebondis, j'avais aussi entendu des témoignages de personnes qui étaient donc enfermées, pas en prison mais en centre fermé, c'est des prisons, c'est pas le même mot mais c'est aussi des prisons, où des personnes qui avaient des cancers étaient soignées, on leur donnait des dafalgans, et donc pareil, hein, c'est exactement les mêmes problèmes, c'est pas avoir accès aux soins, pas avoir accès aux comment on appelle ça, pas des contrôles, mais si, enfin des contrôles médicaux, et du coup, c'était super compliqué et ça crée aussi des angoisses. Quelqu'un qui est malade et qui n'a pas accès à ses soins, en fait, c'est hyper angoissant de se dire « Merde, j'ai peut-être un truc grave et en fait, je vais devoir attendre 3-4 mois avant de pouvoir aller faire une radio ou un autre contrôle. » Enfin, ça doit être hyper flippant en fait, comme situation.
On entendait aussi parler, ouais, dans le témoignage, bah, des traitements spécifiques. si tu as besoin d'un médicament spécial que tu es habitué à avoir un médecin, etc., puis que tu rentres et que on te donne des paracétamol à la place, ça va pas marcher, quoi. Et ouais, moi ça me questionne un peu aussi, ce truc de la surmédication, de se dire qu'est-ce qui se passe alors quand tu sors, si t'as passé je sais pas combien de temps en prison à prendre tous les jours des médocs, et peut-être que c'était une manière aussi pour toi de t'évader un peu, etc. Enfin, soit on s'en fout des raisons, mais si t'as passé plein de temps à prendre des médocs, et qu'est-ce qui se passe quand tu sors, en fait? T'en sors accro, et bonne chance après pour te réinsérer, comme ils disent. Enfin, pour moi, c'est encore une preuve du fait que la soi-disant mission de réinsertion de la prison, c'est juste n'importe quoi.
Il y a aussi, un truc que je trouvais assez interpellant sur le fait, dans son interview, elle dit « fuir le milieu carcéral, prendre des médicaments pour pouvoir fuir le milieu carcéral ». Pour moi, c'est une expression qui dit à quel point, en fait, c'est l'enfer, quoi. Et justement, avec cette copine qui était psy en prison, elle disait, en fait, quand t'es enfermé, il y a toute une série de troubles psychiques qui arrivent, dû notamment, par exemple, aux situations d'isolement. Là, ton compagnon, du coup, il a des proches, dont toi, qui le visitent. Mais c'est ce qu'elle expliquait, c'est les proches, c'est qui? C'est les femmes, les compagnes, les mères, les sœurs. Donc essentiellement des femmes qui vont voir les hommes. Mais elle expliquait que les problèmes psychiques chez les femmes, c'est encore pire, parce que pour les femmes détenues, en fait, elles sont beaucoup plus vite isolées. Donc les proches vont moins les voir, et les frères, les maris endossent moins justement ce rôle de s'occuper des personnes détenues. Et du coup, c'est intéressant, en tout cas, sur les conséquences que ça peut avoir, de dire, quand on est un homme détenu ou quand on est une femme détenue, voilà les troubles psychiques qu'on peut développer en fonction de ce qu'on vit. C'est assez interpellant, quoi. Est-ce que toi, quand tu vas justement en visite, est-ce que tu croises plutôt beaucoup d'autres femmes, ou est-ce qu'il y a des hommes aussi? Est-ce que dans les visiteurs et visiteuses, ou...
Il y a des mélanges, il y a des femmes, il y a des hommes. Maintenant, des fois c'est les frères, des fois c'est des copains, des fois c'est les sœurs, des fois c'est les compagnes ou femmes.
Et d'ailleurs, sur la question des femmes, on s'est dit que ça ferait l'objet d'une émission à part entière un jour dans les émissions et les spas béton, mais il y a plein d'exemples aussi qui sont spécifiques à la détention des femmes, comme par exemple la question des accouchements. Donc les femmes enceintes en prison qui se retrouvent à devoir accoucher dans l'univers carcéral, et officiellement je crois qu'elles sont plus censées être menottées pendant l'accouchement, mais en tout cas c'est des pratiques qui, selon les témoignages, se font encore. Donc elles sont sur leur lit d'hôpital en train d'accoucher, menottées, et avec des surveillants et des surveillantes qui se permettent de rentrer. Et surtout aussi le fait qu'il n'y ait aucun proche, je crois, non, j'en suis quasi sûre même, qu'il n'y a pas de proches qui sont autorisés justement à les accompagner pendant l'accouchement, quoi. Donc c'est over-violent. Mais voilà, ça c'est la petite incise, mais on s'est dit qu'en tout cas on reparlerait un jour dans une émission spécifique sur les femmes détenues, de tout ça.
Moi aussi... pas trop si toi si tu auras des choses à en dire, Sarah, mais cette idée de la surmédication, ça me fait aussi penser au problème de la drogue en prison, en fait, et que j'ai l'impression qu'il y a une grosse hypocrisie de la part de l'administration pénitentiaire, dans le sens où je pense qu'il y a très très peu d'informations qui circulent dans les prisons au niveau des risques liés à la consommation de drogue, aux risques sanitaires, en fait, par exemple de transmission de maladies, etc., ou même sur les maladies, les infections sexuellement transmissibles. On voit ça aussi qu'au niveau santé, les gens en prison, il y a très peu d'informations là-dessus, et que du coup, c'est en fait ça crée des situations super risquées, et sans doute que ça part de l'hypocrisie de l'administration qui fait comme si ça n'existait pas, et que du coup, il fallait pas le prendre y apporter des solutions, que c'est plus facile de faire semblant de rien, alors qu'en fait c'est quelque chose qui existe en prison, mais comme en dehors de la prison aussi. C'est des choses qui existent et on préfère faire comme si c'était faux, qu'il n'y avait rien, que c'était le problème seulement de ces personnes-là, alors que faire de la prévention au niveau de la santé par rapport à ça, c'est super facile.
Oui, c'est facile, mais en fait, non, ça ne se fait pas. Et justement, par rapport justement à comment est-ce que... je sais que ça paraît bateau, j'allais dire, comment est-ce que ton compagnon, lui, vit pour le moment le fait d'être détenu? Oui, ça paraît à la fois très bateau, et en même temps, je me dis qu'il y en a qui doivent le vivre différemment en fonction des situations. Est-ce que c'est un truc qui est... ou pour le moment, ça, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, parce que dire ça va quand on est enfermé, je pense que c'est vraiment un truc impossible. Mais est-ce que lui, il t'en parle un peu de ses ressentis, de comment ça se passe ou...
Oui, il m'en parle. Des fois, il me dit qu'il en a marre, que... voilà, il est perdu. C'est pas à quoi réfléchir. C'est dur.
Je crois que perdu, ça parle beaucoup.
Oui.
Ça en dit long, en tout cas. Et je sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce que quand t'arrives, est-ce qu'on te propose justement un accompagnement psychologique, ou est-ce qu'il y a des choses... est-ce que tu sais un peu comment ça se passe quand t'arrives ou...
Oui, mais non, ils ne proposent pas d'accompagnement. C'est eux qui doivent demander ces fameux rapports, ouais, qu'ils ont fait.
Qui prennent des mois et au final, t'as bien le temps de te sentir pas bien, quoi.
Oui.
Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous auriez envie de réagir?
Je sais pas, mais si toi, Sarah, t'as des envies de choses à dire.
C'est le moment, c'est l'instant.
Je sais pas.
Après, moi, dans l'interview qu'on vient d'écouter, à un moment, la personne dit que t'as pas intérêt à avoir d'urgence en prison. Mais en effet, je pense que c'est vrai, parce que du coup, il faut savoir qu'il n'y a pas du tout des services médicaux vraiment équipés, etc., dans tous les hôpitaux. Il y en a, je pense, seulement deux, un en Wallonie, un en Flandre. Que du coup, quand les détenus ont besoin d'avoir des soins médicaux plus poussés, et du coup d'être hospitalisés, ça fait l'objet, il y a du coup une demande de transfert, etc. C'est super compliqué, il faut transférer les détenus vers une autre prison.
Et il y a aussi le fait qu'il n'y a pas d'infirmier sur place durant la nuit, je pense, et que du coup, quand tu as des soins urgents, en dehors des heures du bureau, c'est un peu galère. C'est ce que tu viens de dire, non?
Oui, si, c'est
ça. Ah, merde, sorry.
Enfin, non, je parlais des urgences, quoi.
Ah, ok, ça va, super. Je me suis dit, mince, c'est ce que j'ai eu un moment d'absence et que je suis à côté de la plaque, mais ça va, j'étais dans le bon.
Ça va, t'es dans le bon.
Ouais, donc au niveau des urgences, c'est clair que t'as intérêt à prévoir, quoi.
Ouais, mais prévoir des urgences, c'est pas facile, hein.
Non, c'est pas facile.
Et ouais, aussi intéressant à soulever, par rapport à ces rapports pour demander des consultations médicales, etc., il faut les comprendre. Je pense qu'il y a très peu d'informations là-dessus, qu'on n'explique pas forcément comment ça marche. Et puis, en effet, si tu ne comprends pas la langue de la prison dans laquelle tu es incarcéré, bonne chance pour remplir un formulaire pour dire « Oui, j'ai un pied cassé, il faut que j'aille à l'hosto, quoi. » Je pense que j'avais entendu une proche qui racontait, elle était française, et elle connaissait une personne qui était en prison, mais en Flandre, quoi. Et du coup, voilà, c'est des barrières de la langue qui sont... Enfin, voilà, je pense pas qu'il y ait des traducteurs en prison qui viennent t'aider à remplir ton rapport pour demander un médecin, quoi.
D'ailleurs, je crois que pendant qu'on écoutait l'interview, je t'ai entendu dire « Ah ouais, ça, c'est vrai ».
Oui, c'était... quand vous avez parlé des radios, c'était une fois, c'était pendant le confinement, et mon compagnon a perdu connaissance, et il est tombé dans les pommes. Et il s'est vite réveillé. Il m'a dit qu'on m'a réveillé avec, enfin, lui donner 2-3 baffes sur le côté. Et après, ils lui ont pris ses paramètres. Ils lui ont dit, ça va. Et puis après, je pense, après un mois, on a été lui faire une radio du cœur. Oui, il a attendu un mois pour faire la radio du cœur.
Donc, quand quelqu'un tombe dans les pommes ou s'évanouit, c'est pas forcément une urgence, quoi.
Non.
C'est pas du tout un signe d'alerte.
Tant qu'il était debout et qu'il a su marcher jusqu'à sa cellule, c'était...
Ouais, ok. C'était... Et tout à l'heure, d'ailleurs, donc là, tu parlais pendant le confinement et justement, tu expliquais par rapport à la prison de... au fait qu'un des gardiens était suspecté d'avoir le Covid. Il y a une info intéressante que tu disais tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler maintenant ou pas.
Oui, ça c'est... Oui, dans une prison, au niveau... C'est un agent qui est affecté et ce sont les détenus qui sont en isolement.
Donc l'agent est malade et les détenus sont punis. Mmh. Et ça, c'est un truc qui s'est fait... On avait dit qu'on ne parlait pas de Covid, je sais. J'en parle 5 secondes, mais ça s'est fait quand même de façon assez... assez systématique, hein, que ce soit dans les prisons ou dans les centres fermés, c'est que quand il y avait des suspicions de cas de Covid, c'était tiens, on va te foutre au cachot. Et donc, du coup, il y a vraiment ce truc de t'es malade, mais en fait, on prend pas soin de toi. Tu peux t'enfoncer dans ta douleur, quoi.
Parce que cachot, c'est pas l'endroit le plus idéal pour se remettre d'une maladie, quoi.
Je crois que c'est pas dingue. J'ai jamais été, mais ça a pas l'air d'être super dingue, d'après les témoignages qu'on a écoutés.
Voilà, du coup, ouais, c'est info qu'il y aurait 11 détenus qui seraient en isolement dans leurs cellules depuis jeudi, sans eau courante ni WC, parce que un des matons a été infecté par le virus, quoi. Je vous propose de faire une deuxième petite pause musicale après cette discussion pour introduire un peu la chanson qu'on va écouter. C'est un morceau qui a été écrit par Code Rouge, un rappeur bruxellois. La chanson s'appelle Bagarre à la plage. Donc voilà, vous vous en doutez, ça parle du de gros scandale qu'il y a eu il y a quelques temps sur la plage de Blankenberg. On va écouter ça.
Les médias au service des capitaux, silence sur les coupes budgétaires dans les hôpitaux. Dans ce pays on est comme ça et trop surréaliste, on aime les choses absurdes. Qui t'a passé pour des cons, on préfère investir dans un missile clinquant qui explosera la gueule d'un inconnu du Moyen-Orient plutôt que d'acheter des respirateurs au top. Pourquoi investir dans le vivant quand la mort c'est le jackpot, le sort qu'on réserve à nos vieux l'omerta. On a fait un remake des sacrifices humains du temps des Mayas. Silence sur le record pulvérisé. La Belgique, elle plane en haut du classement par mort au kilomètre carré. 2020, une année plus que féconde. On peut dire que cette fois, on l'a ramené la coupe du monde. Silence sur les pots de vin, sur Kazakhs Gate, sur Publifin. Les dessous de table, les arrangements entre copains. T'es une racaille bruxelloise si tu voles 100 euros. T'es quelqu'un de respectable dans Giron si t'en détournes des millions. Silence dans le trafic de visa, 15 000 boules par tête dans le trafic d'êtres humains. La NVA s'est faite une place de choix. Silence sur les paradis fiscaux. Ça se compte en dizaines, en centaines, en milliers de milliards d'euros. Silence sur le meurtre de Mehdi et d'Adil. Tu savais pas, les violences policières chez nous ça existe pas. Une petite de 2 ans est morte par balle. On attend toujours la commission d'enquête parlementaire. Si seulement on savait que pour ça, il fallait juste faire une bagarre à la plage. Olé 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 olé. Affaire d'état, les journalistes sortent les caméras. Une bagarre à la plage. Olé 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 olé. Sortez les klebsiens, nos arrangés. Bye bye. Prime time depuis Houston. Allo allo, est-ce que vous m'entendez? Au sol. Castagne depuis la côte. 5 jours que je m'entraîne pour le lancer de parasol. Prime time depuis Houston. Allo allo, est-ce que vous m'entendez? Au sol. Castagne depuis la côte. 5 jours que je m'entraîne pour le lancer de parasol. Une bagarre à la plage. Tu vas me dire que tout ce foin c'est pour une bagarre à la plage. Non mais c'est sérieux ou c'est une blague? Mmh.
Ok. Mais voilà, donc c'était Bagarre à la plage de Code Rouge. On vient d'écouter ça. Ben voilà, là on va passer vers un petit point actualité, voir un peu qu'est-ce qui s'est passé en lien avec le milieu carcéral ou le milieu ou la répression en Belgique. Voilà. Alors, il y a quelques mois, il y a eu un nouveau meurtre policier. C'est Akram, un jeune de bruxellois qui a été tué à Anvers. Il y a une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux où on voit très bien les policiers le plaquer au sol. Et apparemment, il serait mort le soir même à l'hôpital. Voilà, c'est un nom en plus sur la longue liste des victimes de violences policières. On pense à Adil et Mehdi, mais Maouda et Semira, dont on va bientôt commémorer les 22 ans, les 22 ans de sa mort. Et du coup, dans ce titre... Bagarre à la plage, en fait, c'est un fait divers, quoi. C'est une petite bagarre sur la plage de Blankenberg qui a dégénéré. Et on en a fait un scandale national où des jeunes de Bruxelles, des quartiers populaires, ont été diabolisés comme si c'était venu vraiment foutre à la plage pour foutre le bordel, quoi. Alors que pas du tout. Et il y a eu des enquêtes incroyables qui ont eu lieu super rapidement, directement après ça. Il faut savoir qu'il y a plusieurs personnes qui sont incarcérées en ce moment pour ces faits, alors que, comme Code Rouge le dit dans sa chanson, on attend toujours l'enquête parlementaire pour le meurtre d'une petite fille de 2 ans par la police, quoi. Donc, on voit bien où est la priorité de l'État et de la justice. On voit bien quelle est leur priorité, quoi. Quand c'est pour enfermer les pauvres, là ça va, on va très vite, mais quand c'est pour apporter justice face aux violences policières, ben là, ça galère, quoi.
Alors, j'enchaîne sur cette actu bien dégueulasse. Pour parler de quelque chose d'un peu plus positif, si on peut parler de positif quand on parle de prison, mais donc là c'est concernant les congés Covid. Donc il y a plus ou moins 1000 détenus qui sont temporairement sortis de prison pendant la crise du Covid, et fin août, donc la Cour de cassation a confirmé que le temps passé hors de la prison pendant la pandémie ne reportait pas la date d'échéance de leur peine. Et du coup, ce jugement s'applique à la... oui, et donc du coup, la crainte, c'était justement que ça reporte encore leur peine, mais là, donc, ça a été décidé, ça ne sera pas le cas. Donc, on peut considérer que c'est quand même plus ou moins une bonne nouvelle.
Ouais, il faut prendre ce qu'on a.
Ouais, il faut prendre ce qu'on a, même si on espère la destruction des prisons. Et alors, on avait une autre actu, donc la dernière des actus qu'on avait à poser, c'était concernant les VHS, mais on en a déjà pas mal parlé tout à l'heure, hein, Gilles. Et du coup, est-ce que Sarah, t'aurais envie d'ajouter quelque chose sur les visites hors surveillance que, du coup, toi, t'as vécu en pleine face avec ton compagnon? Même quelques mots.
Oui, bah ici, concernant les VHS... Un retour d'affection vis-à-vis de l'un et de l'autre.
Donc c'est vraiment le côté affectif qui était... ouais, on peut imaginer que c'était compliqué, quoi. Ok, bah, merci en tout cas pour le ressenti. Où en sommes-nous?
Je pense qu'on a un petit point...
Un petit point agenda.
Agenda,
donc,
ouais.
Ça rejoint un petit peu... le point actu. Alors, dans l'agenda, donc une date très proche cette semaine, c'est le 13 septembre, donc c'est dimanche. Il y a une grande manifestation de la santé qui aura lieu à 13h, donc départ au Mont des Arts. À Bruxelles, oui, pardon. Je fais comme si c'était quelque chose d'acquis, mais oui, donc c'est bien précisé. Donc ça se passe à Bruxelles. Je pense qu'il y a des départs groupés qui se font depuis Mons, depuis Namur et depuis Liège. Donc je pense qu'il faut s'attendre à une grosse, grosse, grosse manif, on espère en tout cas. Toujours bien dire qu'on n'est pas content et qu'on a envie que ça bouge un peu et de jeter un peu dans le bazar. Et du coup, c'est l'occasion de réclamer... plus ou moins, de plus de moyens dans la dans la santé, mais aussi voilà, il y aura différents blocs. Je sais qu'il y aura notamment un bloc anti-répression, donc c'est l'occasion de réclamer pas mal de choses, je crois, en plus de la santé. Et sinon, tu en as vaguement parlé tout à l'heure, mais le 22 septembre, donc c'est l'anniversaire de la mort de Semira Adamou. Semira Adamou, c'était une militante sans papier qui a été tuée par la police en 1998 lors de son expulsion. Donc elle a résisté à plusieurs reprises son expulsion. Donc ça a été des résistances qui ont été assez violentes parce qu'elle s'est pris pas mal de coups et du coup à la dernière expulsion elle a pas survécu. Il faut savoir que à ce moment-là les gens disaient plus jamais ça, sauf que ça se fait encore, que les gens continuent à être expulsés, les gens, la police continue à frapper et la police continue à tuer. Hein, tu l'as dit tout à l'heure, on pense à Adil, à Mehdi, à Maouda. Et du coup, les gens disaient plus jamais ça, mais ça se passe encore. Et donc, du coup, il y a un appel qui a été publié sur Indymedia et donc qui appelle à redécorer la ville pour pas qu'on oublie le nom de Semira et surtout pour pas oublier son combat. Donc, il y a le slogan qui était sorti pour ses 20 ans, c'était « On a tué une femme, pas son combat ». Donc, montrons que le combat, il existe encore et qu'on va le faire vivre. Donc voilà, si vous voulez consulter l'appel, il est disponible sur Indymedia. Voilà.
Je voulais juste rajouter, du coup j'ai parlé de la plainte contre l'État belge qui est toujours en cours et de la mobilisation pour les visites qui va continuer. Donc si vous avez envie de participer à cette mobilisation, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook de La Clac. Donc c'est sur Facebook La Clac-No Prison. Tout est la bienvenue, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Et on va passer à la partie big up.
Qui veut commencer ? Alors, moi, je vais faire un big up à Michel, dont on avait déjà parlé lors d'une précédente émission. Donc, Michel, elle était enfermée en centre fermé. Et jamais une bonne nouvelle, elle a été libérée depuis. Donc voilà, elle continue à crier qu'elle est pas contente et qu'elle a envie que justement de porter le combat pour que plus personne ne soit enfermé, parce que elle me disait j'ai pas envie que d'autres personnes ne vivent ça. Donc moi je lui fais un gros big up. Big up à Michel.
Ok, je voudrais faire je pense que la prison elle commence dans la rue avec la répression policière. Je voudrais faire un gros big up à toutes les personnes qui la subissent tous les jours dans la rue, qui sont violentées, insultées, menacées par la police tous les jours. Je voulais faire un gros soutien, de la solidarité. On est avec vous. Et soutien aux lanceurs de parasols aussi.
Mais moi, je vais envoyer un gros big up à tous les prisonniers de Belgique et leur dire force à vous et courage et patience. Le bonheur à venir.
Cool, merci. Et maintenant, des big up de la régie.
Ouais, soutien à vous tous et à vous toutes qui êtes enfermés. À chaque fois qu'on en apprend un peu plus sur votre situation, on a juste encore plus la rage et tenez le coup et on est là à l'extérieur. Big up.
Big up à toutes les personnes en prison. On pense à vous, on vous oublie pas et on vous soutient à l'extérieur et on lâchera pas.
Big up aussi à toutes les proches et tous les proches qui s'organisent et qui lâchent pas espoir et qui continuent à mettre leur énergie pour essayer d'améliorer un peu les conditions de leurs proches en prison. Bravo à vous tous.
Gravé sous le coude, pavé sur le terrain. 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 Refais tout le tour jusqu'au point de départ. Refais tout le tour jusqu'au point de départ. Refais tout le tour jusqu'au point de départ. Ouais, c'est gravé sous le coude, pavé sur le terrain. Y'a pas de jeu, on le fait pour de vrai. Y'a pas de jeu, on le fait pour de vrai. Y'a pas de jeu, on le fait pour de vrai. Écris le bruit, fais-le pour de vrai. Y'a pas pas de jeu, on le fait pour de vrai. Y'a pas de jeu, on le fait pour de vrai. Y'a pas de jeu, on le fait pour de vrai. Écris le bruit, fais-le pour de vrai. Va falloir décider de ce qu'on n'a pas choisi. Va falloir décider de ce qu'on n'a pas choisi. Va falloir décider de ce qu'on n'a pas choisi. Va falloir décider de ce qu'on n'a pas choisi. Cache ton ombre, vas-y, cache-la. 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 J'suis dans le feu, j'écris le bord du ciel. J'suis dans le feu, j'écris le bord du ciel. J'suis dans le feu, j'écris le bord du ciel. J'suis dans le feu, j'écris le bord du ciel. Refais tout le tour jusqu'au point de départ. Refais tout le tour jusqu'au point de départ. Refais tout le tour jusqu'au point de départ. Cache ton ombre, vas-y, cache-la. Cache ton ombre, vas-y, cache-la. Cache ton ombre, vas-y, cache-la. Cache ton ombre, cache-la. La vérité, vous n'en entendrez pas parler. 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 Gravé sous le coude, pavé sur le terrain. 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 Refais tout le tour jusqu'au point de départ. Refais tout le tour jusqu'au point de départ. Refais tout le tour jusqu'au point de départ. Ouais, c'est gravé sous le coude, pavé sur le terrain.
Y'a pas de jeu, on fait pour de vrai. Y'a pas de jeu, on fait pour de vrai.